ce mystère de Dieu qui nous parle. Annonce le mystère de l'incarnation. Et d'une certaine manière, vous voyez, ça n'aurait pas de sens au sens plaisir sans l'incarnation. Et la révélation pour nous doit toujours être comprise par la lumière de l'incarnation. C'est là où c'est parfait. C'est le Verbe qui assume la nature humaine. Et la nature humaine est à Dieu un visage. Dieu, dans la première révélation, l'Ancien Testament, c'est le Dieu caché, et Israël n'avait pas le droit de le nommer. Pour qu'on ne fasse pas de confusion, ceci c'était la grande purification par rapport à toute l'idolâtrie. On peut dire que Dieu veut purifier le cœur de l'homme pour que l'homme arrive à adorer celui qui est au-dessus de lui, qui est le Créateur. Je crois qu'on peut dire que toute l'ancienne alliance, dans cette espèce de grande vision, nous montrait la transcendance de Dieu au sens le plus fort. Et dans cette transcendance, il y a une révélation. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas contradictoire. Mais ce ne sera parfaitement compréhensible avec le mystère d'incarnation. Parce que quand un Dieu transcendant puisse nous parler, pas comme un que Dieu, dans son mystère le plus ineffable, qui nous dépasse complètement, nous parle. Et quand vous regardez ce passage de la Genèse, on voit que Dieu parle à Abraham. Et c'est dit avec la plus grande simplicité que puisse être toujours. En 24, dès que c'est fait, Abraham, Dieu dit à Abraham, quitte ton sol. Il est depuis à 75 ans. Et il fera de ça. Au moment où les évêques doivent donner la démission, Dieu les reprend. C'est très extraordinaire, ces choses-là. Parce que c'est quelque chose d'étonnant. C'est vrai, c'est... Et on touche là peut-être quelque chose qui va très très loin, là, que Dieu ait choisi un vieillard. Un homme mûr, très mûr, fort, grande expérience, ça va. Tout recommencer. Et la purification, c'est d'être les yeux qui quittent, qui tombent, tout. Ça, c'est le mystère de la foi, dans toute sa pureté. Tout ça est compréhensible, tout ça est ordonné au mystère d'incarnation. Et dans l'incarnation, on voit cette lumière qui est Dieu lui-même, qui assume une nature humaine, une intelligence humaine, un cœur humain, une volonté humaine. Il assume dans la plus grande intimité qui soit. Les paroles de saint Augustin sont si fortes qu'il dit qu'il ne peut pas y avoir de plus grande unité que celle qui existe entre la nature humaine et la nature divine dans le mystère du Christ. Un passage saint Augustin que saint Thomas reprend du reste, qui est extraordinaire. En montrant cette unité personnelle, cette unité dans le Verbe de Dieu, dans la personne même du Verbe de Dieu, que la nature humaine. créature humaine, le Christ subsiste par le Verbe. Mais c'est là où on voit la nouvelle lumière qui est donnée à l'homme. Mais qui est donnée à l'homme, non pas seulement pour son intelligence, mais pour tout ce qu'il est. Toute la nature humaine, dans le Verbe de Dieu, subsiste par le mystère de Jésus. Notre nature humaine, elle est transformée. Elle est transformée, lumineuse, dans le mystère du Verbe de Dieu, du Verbe qui s'incarne. Et par le fait même, quand Jésus nous parle, il nous révèle ce qu'il voit. Il a dit à Nicodème, du reste. Pour Nicodème, c'est le passage Saint Jean qui est si étonnant. Parce que c'est une leçon de théologie. C'est la grande leçon de théologie. Et on voit bien ce que dit Jésus. Enseignons ce que nous savons. Communique ce qu'il connaît, ce qu'il contemple, ce qu'il voit du mystère même du Père, du mystère même du Père, du mystère même de l'Esprit Saint. Et il nous le communique avec des mots humains. Les théologiens ont inventé ce mot théandrique par rapport aux actions du Christ. La parole du Christ est théandrique. Elle est à la fois humaine et divine. Mais pas moitié-moitié. Elle est totalement divine et totalement humaine. Ça qui est extraordinaire. Et là, vous comprenez peut-être beaucoup mieux ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure au plan théologique. Comment la parole du Christ, elle reste une parole comme la nôtre. Elle reste une parole comme la nôtre, mais elle est toute différente, puisque c'est une parole de Dieu. Une parole de Dieu, c'est une parole qui est celle du Père. C'est la parole de l'homme et de Dieu. Et donc, la lumière, mais Dieu ne fait pas non. J'avais oublié ça. Je crois que le grand obstacle, c'est que nous imaginons. Alors on pense que la créature ajoute quelque chose à Dieu. Alors que la créature ne fait pas nombre avec Dieu. Et ceci, on le voit de façon très particulière dans le mystère de l'incarnation. Dieu n'est changé en rien. Et c'est l'intuition humaine qui est totalement changée. Alors, comprenez pour la parole. La parole divine, c'est la parole humaine qui est radicalement, fondamentalement transformée pour être parole. Et comme Dieu respecte l'œuvre créatrice de Dieu lui-même, Père, il respecte la parole. Saint Aristote. Cette parole, elle est beaucoup plus simple. Et pour pénétrer, jusqu'au moment où ça pénétrer, il y a quand même quelques petites distinctions. Ce qui est remarquable dans le Christ, c'est qu'il y a très peu de distinctions. Il y en a quand même. Quand il donne la leçon à Nicodème, il fait tout ce qui est impliqué dans une théologie. Éviter les confusions. Donc distinguer. Et se servir de l'analogie. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Donc c'est une bonne distinction. Et puis d'un autre, lorsqu'il s'agit de l'esprit, ce qui était. Quand tu es né de l'esprit, tu ne sais pas d'où d'où tu viens et où il va et où tu vas. Mais tu rentres dans la foi, tu vois. Tous les problèmes de la vie. Il faut tout être. Il y a des distinctions. Et se servir de la vie. Et c'est ce que fait Jésus. Pour que nous entrions dans le mystère de la parole de Dieu. Et le mystère de la parole de Dieu, vous voyez, c'est une parole que nous pouvons recevoir humainement. Je connais de mes amis philosophes qui ne sont pas croyants et qui disent que la Bible et l'Évangile, c'est le livre le plus intelligent du monde. Ce qui est parfaitement vrai. C'est le livre le plus humain et le plus intelligent. Pas un livre aussi intelligent que celui-là. Progressivement, par ce contact humain avec Jésus, il était frappé au cœur de l'enfant. Et il dit, qui a un nouveau langage, c'est la même langue. Il a la même signification. Tout était différent dans son existence. Évidemment, nous avons de la peine. Pas comment de comprendre ce que c'est que l'exister, l'être. L'être imprègne tout. Mais l'être n'a de signification, comme dit saint Thomas, qu'à travers les déterminations. Comme la lumière, c'est à travers les couleurs qu'on la voit. Plus on y à travers la détermination de la vie. Mais ces déterminations sont toutes autres dans le à cause de son exister, à cause de son être. Vous voyez, c'est toujours comme ça que nous devons regarder ici la parole de Dieu, comprendre ou la saisissant. Oui, saisissant la parole de Dieu, comprenons. Mais le mystère est de Jésus. Si vous ne gardez de la parole de Dieu que ce que vous comprenez, vous laissez tomber le mystère. Marie gardait la parole de Dieu. Celle qu'elle comprenait et celle qu'elle ne comprenait pas. Vous avez en deux fois. Une fois pour qu'on voit très bien qu'elle garde celle qu'elle comprend dans le mystère. Et puis celle qu'elle ne comprend pas, la garde dans le mystère. Et la bonne terre qui garde la parole de Dieu. La parole de Dieu est gardée dans notre cœur. La bonne terre. Et dans la mesure où l'on garde la parole de Dieu dans l'amour, comme un secret, ceci fait partie des traditions. Or, on peut dire que la tradition, c'est la parole de Dieu gardée dans le cœur des saints. Quand l'Église l'identifie, c'est l'Église qui l'identifie. C'est la parole de Dieu. Et le premier moment de la tradition chrétienne, c'est Marie. Marie n'a rien écrit. Même pas une petite lettre tendre. Elle a tout gardé. Elle nous donne tout. Elle a fait beaucoup de choses, ouais. Ah oui, ça c'est toujours bien. Je ne dis rien.
Par son Fils. Il a envoyé en effet son Fils, le Verbe éternel qui éclaire tous les hommes, pour qu'il demeura parmi eux et leur fit connaître les secrets de Dieu. Jésus-Christ, donc le Verbe avant envoyé aux hommes, prononce les paroles de Dieu et achève l'œuvre de sa vie que le Père lui a donnée à faire. C'est donc lui, de voir, c'est voir le Père, qui par toute sa présence et par la manifestation qu'il fait de lui-même, par parole et œuvre, par signes et miracles, et plus particulièrement par sa mort et par sa résurrection glorieuse, parlant vraiment enfin de l'Esprit de vérité, achève en la complétant la révélation et la confirme encore en attestant divinement que Dieu lui-même est avec nous pour nous arracher aux ténèbres.
Est-ce que ce n'est pas ce que le Christ voulait dire au pèlerin d'Emmaüs, justement, quand il dit « Abraham a vu mon jour » et il leur expliquait ce qui le concernait dans les Écritures. Donc il montre bien cette son antériorité à lui.
C'est sûr. Et ce qui est voyé, ce que je veux dire, c'est qu'en plan théologique, préciser ça est très difficile. Qu'est-ce que ça apporte de nouveau, dans le sens de l'analyse qu'on faisait tout à l'heure, oui. Une modalité particulière du jugement qui se termine directement dans la présence de Dieu. Moi j'ai l'impression d'un caractère d'immédiateté. Vous voyez, ce que la théologie a toujours dit, le nature humaine de Jésus, un instrument conjoint. Bon, on voit très bien un instrument séparé, un instrument conjoint, c'est-à-dire permanent. Ce qui fait comprendre que la parole de Jésus est une parole vivante, d'une vie beaucoup plus intense que la parole vivante. Parce que c'est la source, instrument conjoint. Et l'intelligence du Christ, vous voyez, est conjointe à la lumière divine d'une manière unique. Et quand il nous transmet, qu'il nous parle, sa parole nous met dans une proximité du mystère du Verbe de façon tout à fait unique. La proximité, c'est du côté de la parole vivante.
Est-ce que vous pouvez préciser, est-ce qu'on peut préciser la notion de tradition vivante, qui enveloppe tout et qui est première par rapport aux écrits que nous avons eus.
Mais je crois que c'est ce fait, ce que tu as voulu, ce que je disais tout à l'heure, la foi en point de départ de bienfection. Prenez l'exemple très simple au point de vue humain. Toute la différence qui existe entre les conseils qu'on reçoit d'un père, l'enseignement qu'on reçoit d'un père ou d'une mère, et puis l'enseignement qu'on reçoit d'un maître. Vous avez beaucoup de pédagogues avec un seul père. Ça peut être l'audace de dire ça. C'est très grand. Le sens de la paternité. Alors, est-ce que justement l'enseignement du père n'est pas d'abord un enseignement qui demande d'être reçu par des fils dans leur cœur? La parole de Dieu doit être reçue d'abord dans notre cœur. C'est reçu, c'est-à-dire qu'elle est reçue dans le silence de notre cœur. vécu dans le silence de votre cœur, que c'était qu'ensuite qu'elle peut être dite, exprimée. Donc, recevoir la parole de Dieu dans votre cœur, en vivre, c'est ça la tradition. C'est cette profondeur de la parole de Dieu qui est peut-être vécue dans le cœur, dans une manière contemplative. C'est l'aspect contemplatif de la parole de Dieu qui est au-dessus de toute distinction. Ah, c'est une parole d'enseignement, c'est d'abord une parole d'éducation. Et la tradition, c'est du côté de l'éducation. Parce que pour vraiment être éduqué, il faut une tradition. Quand il n'y a plus de tradition, on ne peut plus être éduqué. Et je crois que certaines choses ne peuvent se communiquer au point de l'enseignement que si une tradition d'éducation. C'est pour ça que je me demande, vous voyez, si l'enseignement de la métaphysique ne peut se réaliser que s'il y a un milieu religieux. En dehors d'un milieu religieux, c'est très difficile de faire la métaphysique. C'est impossible. La sagesse, une métaphysique qui conduit la sagesse, une sagesse philosophique acquise, ne peut être enseignée dans un milieu affectif ou dans une famille. Il est évident que la philosophie est passée à l'université. Et à partir de ce jour-là, elle s'est pervertie. Elle était gardée dans la vie monastique. Elle était gardée dans des communautés religieuses, des communautés sacerdotales. À ce moment-là, on peut transmettre. Autrement, c'est impossible. Au fond, on ne peut être intelligent que si on est totalement consacré à Dieu. Je crois que l'intelligence ne peut s'éveiller que dans un milieu religieux. C'est un fait, ça. Alors, on remplace la sagesse métaphysique par les mathématiques. Les mathématiques peuvent s'enseigner dans une université. Et les sciences aussi, c'est pas la sagesse. Quand le Saint-Père est venu à Fribourg, je n'étais plus professeur. Mais la providence a permis que je devais encore faire passer quelques examens. Et comme je venais la veille, du jour où je devais faire passer ces examens, j'ai avancé d'un jour pour être là. Et j'ai écouté le grand discours du pape sur l'université. Les étudiants m'ont dit après, mais qu'est-ce que vous avez donné au pape pour qu'il dise ça? Alors, après le discours du pape, il y a une étudiante, parce que le Saint-Père a interrogé, il y a une étudiante qui a posé une question. Je ne crois pas que c'était prévu et qu'il y avait une censure. Elle a dit, très impère, expliquez-moi pourquoi nous avons beaucoup de professeurs intelligents, très informés, ayant d'excellents méthodes de travail. Mais nous n'avons pas de maître. Je trouvais ça très étonnant. Sa mère a répondu, vous voyez, c'est assez délicat, tous les professeurs. J'étais pris avec eux, j'étais de l'autre côté. N'avons pas de maître. Parce que je crois qu'il n'y a plus de famille. Des choses qu'on peut dire que dans une famille où il y a une confiance, c'est la fameuse parole de Socrate. Es-tu mon ami? Si tu es mon ami, je peux parler. Si tu n'es pas mon ami, je ne peux pas parler. C'est trop dangereux. Si tu es mon ami, je peux parler. Vous voyez, la tradition, c'est ce milieu dans laquelle la parole peut être reçue. s'il n'y a pas ce milieu, très très vite, on reçoit mal. La parole est un trésor tellement grand que s'il est communiqué en plénitude, peut-être communiqué très bien. Et c'est pour ça que je crois que dans la nouvelle alliance, la tradition passe devant. Quand il s'agit d'Abraham, on n'a pas de tradition.
L'Apocalypse l'a secoué tellement.
qui ne pouvait pas garder ses secrets. Et il fit pour l'Église secouée par les grandes tempêtes de l'Apocalypse. Alors à ce moment-là, il a compris que l'Église avait besoin des secrets.
Thank you.
sûrement les grades très bien. Tous les grades. Et il avait absolument toutes les qualifications. Un notable pour lui. Il veut de lui. Donc, il a attention à sa réputation. Je crois qu'il a beaucoup ça. Puis, pour trouver Julien, calme, paisible. Pendant la journée, il s'est mis à la table d'avant. C'est tout impossible de parler de choses sérieuses. Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu, comme un maître. Voyez la différence d'âge. Jésus, 30 ans, à peu près quoi. Et Nicodème, sûrement, encore plus. Et salue Jésus comme un maître. Tu viens de la part de Dieu. Comme un maître. Tu es un envoyé de Dieu pour lui. Personne ne fait les signes que tu fais si tu n'es pas un homme. Oui, c'est la salutation la plus étonnante qui soit. Dans ma vie, j'ai reçu une fois une salutation comme ça. Pas tout à fait la même. Hein. dialogue est important. Alors, comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère? Un peu scandalisé, vous voyez. Et alors, quand on est intelligent, quand on est intelligent, quand on est un maître, quand on sait qu'on sait tout, parce que c'est le propre du maître, c'est savoir qu'il sait tout, et donc qu'il ne peut plus être enseigné. Et quand on vous dit quelque chose auquel on n'a pas compris, on prend du temps pour du recul. Madame se met à interroger. Une interrogation qui est complètement d'à côté. Ah, lui ne sait pas. Jésus répond alors, c'est là où commence l'enseignement du mec. En vérité, je te dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, ne le porterai pas en lui. Ce qui est né n'a cherché, voilà la distinction. Jésus donne une vraie leçon de théologie à des malades. Je trouve ça admirable. Il explique qu'est-ce que c'est que naître.
Sens mystérieux.
et dit que les deux, lui, comprend le sens littéral, matériel, non. Jésus, en tout cas, c'est pas ça du tout. C'est pas le sens historique. C'est la naissance d'en haut. La naissance d'en haut, c'est une naissance d'éternité. Je nais actuellement dans la grâce. La naissance dans la grâce est actuelle. Né de la chair, ce qui est né de l'esprit, l'esprit. Vous voyez, ce qui est né de la chair, pour bien montrer que cette autre naissance est une naissance de l'esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vont faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Ainsi en est-il de quiconque. Merveilleux pour faire comprendre la situation de celui qui est né de l'esprit. Il entend la voix du vent. La voix du vent, c'est l'esprit. C'est très curieux, dans Saint Jean, la voix, c'est toujours attaché à l'Esprit Saint. Or, la voix, je ne vais pas en montrer ce matin, mais j'aurais dû la montrer, c'est que la parole est toujours liée à la voix. Quand on a plus de foi, on fait toute l'étude de la foi. C'est toujours comme ça qu'on comprend ce que c'est. La foi, c'est le côté affectif de la parole. C'est lié à tout l'aspect organique et tout l'aspect affectif. Vous voyez, c'est l'aspect de la pure affection. Et c'est l'aspect de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est la foi. L'Esprit Saint, il redonne tout l'enseignement du Christ, mais à sa manière, à travers la tradition. Parce que la tradition est liée donc à ce côté affectif du cœur. Il est lié à la foi. Et donc, ça, ça me semble très important, c'est que celui qui est né d'en haut, il entend la voix de l'Esprit. Souffle de l'Esprit. Expérience intérieure, l'Esprit Saint qui nous pousse. Et s'il ne sait pas d'où il vient et où il va, je ne peux pas raisonner sur ma vie divine. La vie divine est au-delà de tous les raisonnements. Et j'ai cette certitude d'être soumis par l'Esprit, d'être sous la mouvance de l'Esprit. Certitude d'amour, pas certitude intellectuelle. Je ne sais si c'est l'objet d'amour ou de haine. Il n'y a pas de certitude spéculative, scientifique. Mais il y a une confiance d'enfant qui dépasse tout cela. Quelque chose qui va beaucoup plus loin. C'est justement ce qui est entendu la foi de l'esprit. Alors voilà encore, la foi de l'esprit est symbolique. L'avantage symbolique. Pas une analogie propre, alors. C'est ça qui est très important. C'est que le théologien doit faire le discernement entre les analogies propres et les analogies métaphoriques. Les analogies métaphoriques, elles ne sont pas présentes dans la somme théologique de Saint-Denis. Mais les analogies métaphoriques, on doit les garder dans une théologie mystique. Vous avez laissé tomber. C'est ça qui est terrible. On a laissé tomber toutes les analogies métaphoriques et tous les gestes. C'est pour ça que si souvent, la théologie des sacrements est si pauvre. Parce qu'on a laissé tomber les gestes. Et dans une théologie mystique, on doit récupérer les analogies métaphoriques et les gestes. Parce que les gestes sont beaucoup plus affectifs. Beaucoup plus affectifs que la parole. Et la parole implique quelque chose d'affectif. Je me souviens, c'était des psychologues qui ne me connaissaient pas, qui avaient signé une conférence que je donnais à Paris. C'est des amis qui les avaient portés. Alors après la conférence, ils ont dit que c'est Le vent souffle et le vol, tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Toute cette grande métaphore, c'est une attache métaphorique merveilleuse pour qu'on comprenne et qu'on entre. Ainsi en est-il pour quiconque. Je crois que, voyez là, Jésus lui-même nous montre ce qu'est la théologie, les distinctions et les analogies. C'est pas autre chose. C'est les distinctions. Éviter les confusions. Le théologien se bat tout le temps contre les confusions. Se bat contre les Nicodèmes d'aujourd'hui qui ont banalisé leur foi tout en étant docteur en théologie. Ils ont banalisé leur foi. Ils ne comprennent plus la transcendance de la foi. Alors, ils ne comprennent plus. Et le théologien appelle autre la naissance en haut, autre la naissance de la chair. Nicodème lui répondit, comment cela peut-il se faire? Voyez les deux comment de Nicodème. Il veut un peu d'efficacité. Comment ça peut-il faire? Et ça l'intéresse beaucoup. Il a mis du temps avant de poser cette question à Jésus. Là, il se met sur les gants. Avant, il a un peu dit oui. Tu es maître en Israël. Et ces choses-là, tu ne les sais pas. C'est très, très bien dit ça. Chaque fois qu'on s'humilie un peu en face de Jésus, il y a un peu de temps quand même. Ma mère demande ça à ce tout jeune maître. Comment cela peut-il se faire? Dès que Nicodème s'humilie un tout petit peu, qui quitte son mode un peu ironique, immédiatement Jésus continue de l'humilier. Tout le temps comme ça. Ça fait partie de la conduite de l'Esprit Saint sur nous. Dès qu'on a un tout petit peu, ça monte à de bonne volonté. Un petit Jésus, au tout petit Jésus, immédiatement sur la porte de Jérusalem. Tu es maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas, c'est effrayant. C'est le reproche le plus grand que je peux faire. Ne pas connaître la chose élémentaire, le mystère de la grâce, le mystère de la gratuité. Israël, au temps du Christ, ne sait plus ce que c'est que la gratuité. C'était extraordinaire, ça. Oui. Alors quel sens littéral, là? Oui, bien le sens littéral, c'est dans un enseignement. Jésus veut faire comprendre ce que c'est que la grâce. Et Jésus veut faire comprendre comment on peut être théologien d'Israël, connaître parfaitement l'Écriture, et ne rien saisir à la grâce. L'écriture parfaitement humainement parlant. On la connaît pas du tout. Parce que l'examen de maître en Israël, c'était comme quelque chose. Actuellement, c'est quelque chose. En Israël, on voit ce que c'est. Il faut connaître tout par cœur. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas nés en Israël, c'est très très difficile. Je connais une femme qui était protestante, qui s'est convertie au catholicisme, qui était hollandaise. Alors, cette Hollandaise a appris de tout par cœur. Elle s'est présentée et elle a passé. Il faut connaître, on pousse n'importe quel passage. Il faut connaître, on est bon. Pas le bon des salons. À partir de là, ça, c'est magnifique parce que c'est Jésus qui montre comment il humilie un théologien. Donc vous voyez, le théologien, quand il lit l'écriture, si je suis théologien, c'est pour mieux lire l'écriture. j'enseigne la théologie. J'enseigne la théologie en dehors de l'état d'écriture. Toujours en veillant. Et je vois la parole de Dieu. Parce que c'est la nourriture de la foi. C'est pas les conclusions théologiques qui me nourrissent. Ça nourrit, oui, ça nourrit un peu. Mais c'est avant tout pour mieux saisir. Mieux comprendre toutes les analogies qui sont dans l'humain, qui sont des religions. C'est toutes ces analogies d'écriture que le théologien m'a fait. bien quand il va sortir. L'imagination, très bien. La mémoire, très bien. Ça revient quand c'est nécessaire. Et voyez, celui qui se place en disant ses écrits.
Mathieu, Marc, Luc, puissent parler comme ça du coup.
tout ça merveilleux. Et que l'esprit-là n'est pas voulu. Parce que lui n'a rien oublié. Que on a fait exprès pour montrer la coopération du peuple de Dieu, des apôtres avec l'Esprit-Saint. Et que en dernier lieu, et au fond, si on est attentif, à l'Apocalypse par rapport à Saint Jean, on voit que toutes les grandes intuitions de Jean, qui le croit, viennent de Marie. On les retrouve dans l'Apocalypse. Comme si l'Apocalypse venait libérer aux gens de ce secret pour le commun de tous. Et de lui choisir assez étonnant. Tu veux que nous portions longuement certains secrets, puis après les communiquer. Et là, vous avez justement un des cadeaux, la transmission de la parole de Dieu. Il faut garder la parole de Dieu dans son cœur longtemps pour que cette parole de Dieu, subitement, s'élève et nous conduise au mystère. Nous entrions au mystère. Je ne sais pas où jamais parole mystère. Que la parole est grande et nous donne le mystère. Il ne faut pas laïciser la parole. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On laïcise. Mais alors, la tradition explique comment les évangiles peuvent être écrits 20 ans, 30 ans, 50 ans après la mort du Christ. C'est la tradition qui porte ça. Parce que ça, c'est l'Esprit Saint qui nous enseigne dans la vie. Le jour où vous supprimez ça, vous inventez. Alors, hermétique. Vous inventez quelque chose qui explique pourquoi et comment on peut dire que l'on a dit ça. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, on détruit le mystère de la vie. L'autre grand cadavre, c'est évidemment l'Église. La tradition doit être confirmée par l'Église. Elle est confirmée par l'Église. C'est l'Église qui dit ce qui est authentique, ce qui n'est pas authentique. C'est le magistère. Et là, le Saint-Père a une grâce particulière, Pierre, de montrer au monde ce qui est révélé, ce qui n'est pas révélé. Évidemment, l'Église en a pris conscience progressivement, c'est sûr. Parce que là, je l'ai appris ça. Elle a pris conscience progressivement qu'il y avait ce garde-fou. Que le pape avait cette grâce particulière de montrer ce qui était authentique, ce qui n'était pas authentique. Cet enseignement de l'Église se transmet par les conciles. Par l'enseignement actuel du pape. Les évêques unis au pape quelque chose de cette grâce du mystère. Et le mystère, c'est toujours le mystère de la parole de Dieu et de la tradition. Pour comprendre la doctrine de l'Église au niveau contemplatif et au niveau moral par rapport à la conception de l'homme. Une conception qui est donnée dans l'enseignement. Puis tous ceux que l'Église donne un mandat et témoigne. Quand il reçoit de l'Église un mandat, on a vu ça à Fribourg, quand l'Église a retiré le mandat du certain théologien, la public gueule. Quand l'Église retire le mandat, vous n'êtes plus théologien. Le théologien, en tant qu'il a un mandat pour enseigner, il est parti du corps enseignant de l'Église. Il est parti. Alors le théologien doit être suffisamment capable et intelligent pour discerner ce qu'est la tradition de l'Église et ce qui est sa propre aventure. Voici par exemple la terre de la gauche, quand il enseigne dans sa chair de vérité la tradition de l'Église, et quand il a assemblé son irascible augmenté pour critiquer tel théorie de théologien, descendait de sa chair, et puis se mettait à critiquer son propre opinion pour bien montrer la différence. Mais je crois que c'est très juste. On doit l'admettre, on doit savoir ce qui est la tradition de l'Église, un enseignement qu'on doit croire, ce qui est sa propre opinion. Et l'Église maintient cette recherche. L'Église veut que cette recherche. Parce que l'Église n'étouffe pas du tout. Et ce qu'elle veut, c'est que le théologien qui est un croyant sache discerner ce qui est authentiquement la tradition de l'Église et ce qui ne l'est pas. Alors, les autres canaux, c'est que nous faisons tous partie de la tradition, en attendant que nous soyons des saints sous les autels pour dire ce qu'il a dit. C'est vraiment partie de la tradition. Mais c'est des questions-là, vous voyez. Et même, la sainteté ne confirme pas tous les écrits. Tous les écrits n'ont plus la sainteté.
Je vous permettez de vous approfondir ceci. Bon, pareil, il faut se s'enraciner, que nous travaillons. Cette partie-là, je vous renvoie à des choses que les jeunes en formation connaissent, enfin, je vous les renvoie. Et d'abord, Dominum et Vivificantem. Le Saint-Père, là, montre merveilleusement ce qu'on signifie, le rôle de l'Esprit Saint, qui prend ce qui est du Christ pour nous en faire vivre. Que essayer de lire dans cette perspective, dans ces livres. Et puis, on parle souvent de la racine de terre sur Marie, première église. C'est très bien cet aspect où il montre justement l'importance dans le chapitre 8 de l'Ingensium, sacré à Marie. Et puis, un interfeuillet, comment Marie communique à Luc, Jean à Luc, etc. Comme ça, vous pourrez bien enraciner ce qu'elle y fait. Et puis, l'autre chose, alors c'est rapide, mais je vous rappelle à propos de naître de l'eau et de l'esprit, ce mot d'achat de Saint-Victor. Naître de l'eau, c'est-à-dire, Mère, l'Église et Marie, et l'Esprit, c'est-à-dire du Père. On a dans un des sermons de la
Chambre Saint-Denis. Vous avez un langage symbolique, vous avez un langage symbolique. Là, dans ce que vous voulez dire en citant ce mot.
Ah, mais j'ai cité Achard dit que ce qui est dit symboliquement là, de l'eau et de l'esprit, ça veut dire l'être de Marie et l'être du Père.
Ça, c'est un mot symbolique.
L'eau et l'esprit, l'eau,
la plante de l'eau. Qu'est-ce que vous m'avez dit?